Voilà, eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Bienvenue à nos amis internautes qui nous suivent sur YouTube. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde dans l'amphithéâtre. Comme vous savez, il y a des mouvements sociaux aujourd'hui, pas loin d'ici, un peu partout en France. Mais donc, on est content que vous soyez nombreux à avoir pu venir ce soir pour nous rejoindre dans l'amphithéâtre. Et puis, on est content aussi s'il y a des gens qui nous suivent sur Internet. Donc, pour cette conférence de l'Institut d'astrophysique de Paris, je vais vous présenter, vous annoncer d'abord les deux prochaines. Donc celle que nous recevons, la conférence que nous organiserons le mois prochain, le mardi 7 mars, nous recevrons notre collègue de l'Observatoire de Paris, David Valls-Gabo, qui nous présentera une conférence intitulée « L'espace-temps déformé, une histoire des mirages gravitationnels ». Donc la réservation pour venir assister à la conférence ici, c'est à partir de demain matin. Et puis le 4 avril, nous recevrons notre collègue Pierre Guillard, ici de l'Institut d'astrophysique, qui nous présentera une conférence qui présentera des résultats du télescope James Webb et qui répondra à la question avec ses données, pourquoi la formation des galaxies est-elle inefficace ? Voilà. Et pour ce soir, nous avons le plaisir de recevoir notre collègue Antonella Barucci. Antonella est astronome à l'Observatoire de Paris, dans le laboratoire LESIA. Tu as travaillé d'abord en Italie, tu as travaillé aux États-Unis et puis tu es à l'Observatoire de Paris depuis un certain temps, où tu travailles donc notamment essentiellement sur le système solaire, les planètes du système solaire, les petits corps du système solaire. Tu es très impliqué toujours dans beaucoup de missions et tu as été impliqué dans beaucoup de missions qui ont exploré le système solaire et les planètes dans notre système planétaire. Tu as d'ailleurs, pour les missions sur les petits corps, obtenu la médaille d'argent de la NASA il y a peu de temps. Donc nous sommes très heureux de te recevoir. Tu reviens après, tu as fait une conférence en 2019 où tu nous présentais déjà donc les deux missions dont tu vas parler ce soir. Et donc là, il y a différents résultats qui ont été obtenus, donc tu vas pouvoir mettre ça à jour. Donc pour une conférence intitulée « Exploration des petits corps du système solaire à la recherche des origines des planètes et de la vie ». Sur Terre. Je te laisse la parole dans un instant, juste après avoir rappelé que, donc à la fin, je donnerai la parole à l'amphithéâtre s'il y a des questions, des commentaires, et également sur le chat sur YouTube. Donc si vous avez des questions, des commentaires, mettez-les tout au long de la conférence et j'essaierai de suivre ça pour les retranscrire à la fin. Voilà, je t'en prie.
Bonsoir à tous. Donc je vais vous parler des petits corps du système solaire. En sachant que les petits corps du système solaire, on peut vraiment considérer comme les briques qui l'ont formé notre système solaire. Et donc là, vous voyez, il y a tout un ensemble d'objets des différentes tailles, des différentes dimensions, caractéristiques, compositions, morphologies. Mais chacun, il apporte des informations très importantes. Là, par exemple, et tout ça obtenu avec des différentes missions spatiales, parce que quand on l'observe du ciel, on voit juste qu'un petit point. Hein. Donc, il faut des missions pour les caractériser. Il faut aller tout proche de ces objets. Donc là, il y a les deux objets les plus grands, Vesta et Ceres, qui font à peu près 1 500 km de diamètre, plus tous les autres objets là qui sont ici, sont avec la même échelle, et pour vous montrer la différence de ces objets. Donc, pourquoi étudier ces objets? Pour comprendre l'origine de notre système solaire. Donc, quand on pense à l'ensemble des gaz et des poussières qui étaient autour du Soleil, pendant la formation de notre système solaire, il y a eu la poussière qui a commencé à s'accréter ensemble, à avoir des collisions, s'agrandir, à former des objets de plus en plus grands, et donc former ce qu'on appelle les planétésimaux, et donc les embryons planétaires, et donc jusqu'à arriver aux planètes. Donc les astéroïdes sont les objets qui ne sont pas arrivés à former des planètes, les astéroïdes, les comètes, tous les petits corps du système solaire, mais qui sont restés plus ou moins des dimensions beaucoup plus petites. Donc là, je vais vous montrer cet diagramme dans lequel on a ici la distance du Soleil, une unité astronomique. Et ici, c'est une échelle des temps. Donc ici, c'est les temps zéro au moment de formation de la nébuleuse protosolaire jusqu'à arriver aujourd'hui avec la formation des planètes. Donc quand vous imaginez la matière de l'origine du système solaire, à l'instant T égale 0, on avait toute une matière beaucoup plus dense, réchauffée, avec une température très élevée à cause du Soleil, et toute la matière qui là est représentée en bleu, plus lointain, riche en glace, en volatiles, etc. Et donc, vous voyez toute cette différence. Mais cette différence, on ne la retrouve pas aujourd'hui, parce qu'il y a eu tout un missing, il y a eu un missing radial, il y a eu de la masse qui était éjectée à droite à gauche. Et donc, dans la population des astéroïdes, ici, entre Mars et Jupiter, on peut trouver tous des objets qui se sont formés aussi très loin dans notre système solaire. Et après, dans la ceinture principale, on peut avoir aussi des objets qui vont à côté de la Terre et former celles qu'on appelle les objets géocroiseurs qui intersectent l'orbite de la Terre. Donc, chacun de ces objets, ça nous porte des informations, mais il faut aussi savoir que ces objets, ils ont eu beaucoup de collisions avec la Terre. Et la vie est née sur Terre après ce grand bombardement. Et qu'est-ce qu'ils ont emporté, ces objets? Ils ont emporté de l'eau, des organiques et des molécules prébiotiques. Et tout ça, c'est la matière principale pour l'origine de la vie. Donc, un des buts de l'étude de ces objets, qu'ils soient astéroïdes et comètes, c'est vraiment comprendre comme ils ont emporté l'origine de la vie sur Terre. Donc avant de parler des derniers résultats des deux missions, donc des missions que je vous parlerai, je vous dis juste quelques informations très courtes sur la mission Rosetta, qui c'est la dernière mission qui a visité une comète, qui a visité la comète Churyumov-Gerasimenko. Et donc c'est une mission qui a eu un très long voyage, parce que pour arriver à l'orbite de la comète, ici, quand la comète était très loin du Soleil, vous voyez, là, c'est le Soleil, là, c'est l'orbite de la comète. Donc là, sont les premières observations, que c'est plutôt en point, comme vous pouvez voir, en 2014. Et petit à petit, on voit la résolution, on voit beaucoup plus de détails. On voit cet objet qui, c'est comme deux planétésimaux qui se sont accrochés ensemble. Et après, on a eu des landers, plein d'instruments qui ont fait plein d'observations, et on a suivi la comète jusqu'au moment qui est au périhélie, très proche du Soleil, et là on voit l'activité, et on a continué à observer jusqu'au quand il retournait très loin, et là la mission Rosetta s'est posée sur la surface, et là aussi a donné plein d'informations. Alors pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en réalité je voudrais vous parler qu'il n'y a pas de différence grosse entre les comètes et les astéroïdes. Avant, on pensait que les astéroïdes sont des objets de roche et les comètes des objets de glace. Mais normalement, on fait une distinction en fonction de leur activité. Mais comme vous voyez, quand on l'observe, ils sont très loin, il n'y a pas d'activité. Il faut aller très proche au Soleil pour voir l'activité. Donc, c'est beaucoup plus. La distinction est beaucoup plus complexe de ce qu'on imagine. Et en réalité, si on regarde les spectres des premières observations de la comète Churyumov-Gerasimenko, grâce à la mission Rosetta, on voit des spectres où on ne voit pas du tout la glace d'eau. On ne voit pas la glace d'eau typique des bandes 1,6 et 2 microns. Et il y a la bande à 3 microns, mais c'est mélangé avec les organiques. Donc, comme vous voyez là, on a plein d'organiques, mais on ne voyait pas la glace sur la surface. Et cette comète était vraiment très, très sombre. C'est très sombre comme les astéroïdes plus primitifs du système solaire. Mais en faisant des observations en détail, comme vous voyez, on trouve des taches qui sont beaucoup plus claires. Et ces taches sont, comme vous voyez ici, détectées par la caméra qui est à bord de la mission Rosetta, qui sont tout petits, ça peut faire de l'ordre de 200 mètres de diamètre. On voit, une fois qu'on détecte ces taches, avec la spectroscopie, qu'en réalité, il y avait les bandes de glace, et c'était vraiment de la glace. Mais cette glace était cachée de cette structure, de cette poussière, de cette partie très rocheuse, très sombre. Donc là, on peut voir une map de toutes les taches de glace détectées sur la surface de la comète. Mais ce que c'était vraiment les résultats, très brièvement, quels étaient les résultats les plus importants? Bon, cette comète était très sombre, on le savait, mais donc c'est très rocheux. Mais le rapport de la poussière par rapport au gaz est très élevé. C'est à peu près 7-8, donc c'est énorme. Il y a beaucoup plus de poussière que de matières gazeuses. Il y a aussi une très grande porosité, entre 70-4 ans, donc il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Et aussi, un résultat très important, c'est les dessourages. Dessourages, pourquoi c'est important? Parce qu'en réalité, il y a cette discussion, est-ce que ce sont les comètes ou les astéroïdes qui ont apporté la vie sur Terre? Pour chercher la vie, il faut chercher l'eau. C'est une des matières plus importantes. Et donc, cette dessourage, c'est vraiment très important pour comprendre quelles étaient les raisons qui ont apporté la Terre à avoir un dessourage si élevé, quand tous les systèmes solaires est plus ou moins ici, comme vous voyez. Ici, c'est la nébuleuse protosolaire, et ça, sont les planètes qu'on connaît, Jupiter, Saturne, etc. Par contre, si on regarde tous les comètes ou certains satellites, les dessourages est beaucoup plus élevé, inclut aussi la comète Churyumov-Gerasimenko, ici en rouge. Par contre, tous les chondrites carbonées, donc celles qui viennent des astéroïdes, sont très semblables au rapport de dessourage deutérium hydrogène de la Terre. Et aussi pour terminer, je voulais vous montrer qu'il y a eu quand même aussi beaucoup d'organiques trouvés sous la comète, mais aussi sous la comète, à part les organiques qui ici sont représentés comme des animaux, hein, vous avez la glycérine qui est un des organiques les plus importants, les méthane, l'éthylène, plein de choses. Donc tout ça sont les matériaux quand même importants, ils sont celles qu'il faut chercher pour chercher l'origine de la vie sur Terre. Donc pour faire ça, il y a eu deux missions de la NASA et de la JAXA. Donc la JAXA, c'est l'agence spatiale japonaise, qui sont allées vers des objets primitifs. Alors, comme vous savez, les astéroïdes, on peut avoir des objets très évolués, différenciés, formés de métal, des silicates et tout, mais il y en a certains qui sont vraiment très très primitifs et sont celles qui sont associées aux météorites chondrites carbonées. Et donc, c'est sous la base des études des chondrites carbonées qu'on a fait tout l'âge du système solaire et on s'est basé pour faire des modèles de formation du système solaire. Donc là, la mission était partie en 2014, était en orbite 2018-2019 et a ramené sur Terre des échantillons en 2020. La mission OSIRIS-REx de la NASA, donc toujours les deux astéroïdes Ryugu et Bennu, des astéroïdes primitifs, était lancée en 2016, de la science en orbite jusqu'en 2021 et les échantillons arriveront en septembre de cette année. Donc l'objectif de ces missions, c'est vraiment comprendre l'origine de notre système solaire et comprendre l'origine de l'émergence de la vie sur Terre. Alors pourquoi on a besoin des missions de sample-retour, des retours d'échantillons sur Terre? Parce qu'en réalité, on a besoin des instruments avec une très grande précision. Une très grande précision qui s'inclut des analyses à les particules per au niveau des particules par million dans les rapports isotopiques et dans les cas de résolution spatiale, on a besoin d'une résolution énorme, qu'on arrive vraiment à quelques microns, même moins. Et tout ça, on ne peut pas les faire avec des instruments qui vont dans les objets, mais parce qu'on ne peut pas ramener des instruments comme les synchrotrons, des grosses sources, des instruments lourds qu'on peut avoir en laboratoire. Et donc l'idée, c'est ramener cet échantillon sur Terre. Et pourquoi aller vers les astéroïdes Joe-Crozet? Parce qu'ils sont beaucoup plus proches au Soleil et c'est beaucoup plus facile pour aller. Donc une mission comme la mission de Rosetta vers la comète, il a mis 12 ans pour y arriver. Une mission vers les astéroïdes Joe-Crozet, il met quelques années et donc on peut aller revenir amener les échantillons sur Terre. Et c'est beaucoup plus facile d'un point de vue orbital. Donc la mission de la JAXA, si vous voyez là, c'est les spacecraft, les panneaux solaires. Là, il y a un petit bonhomme qui donne la dimension pour montrer que c'est une mission qui n'est pas énorme, ça ne coûtait pas cher. Il y a juste quelques instruments pour faire les spectromètres, les caméras. Il y a là la rentrée, la capsule de retour pour les échantillons. Là sont les antennes pour transmettre les données. Et ici, comme vous voyez, il y a un petit bras qui sert pour prendre les échantillons et les remettre dans la rentrée capsule. Donc cette mission, comme on disait, c'était lancée en 2014. Il a travaillé jusqu'en 2018. Et là, on a eu enfin les prélèvements des échantillons et sont arrivés sur Terre à la fin de 2020. Mais c'était une mission extraordinaire où il y a eu un rover, c'est un petit lander fait par les CNES, l'agence spatiale française, plus les Allemands. Ça, c'était comme une boîte, hein, une boîte de chaussures. Mais il y a eu aussi des petits rovers avec la grande miniaturisation des Japonais, c'est comme une boîte d'allumettes où il y avait des instruments, des caméras qui étaient lancées sur la surface de l'astéroïde. Donc voilà, là, c'est l'astéroïde Ryugu. Sont les premières images, l'objet qui tourne autour de l'axe de rotation avec un diamètre à peu près de 900 mètres, un albédo de 4,5%. Albédo, c'est la capacité de réflexion. Hein. Donc, vous savez, 0, c'est très, très sombre, donc il n'y a pas de réflexion. Et A, c'est comme un 1, c'est comme un miroir qui reflète complètement. Donc, 0,04, c'est vraiment tout faible, hein, c'est vraiment très, très sombre. Mais quand on regarde les détails de cet objet, on peut voir qu'il y a aussi beaucoup de variations. Il y a des cailloux plus grands, plus lumineux. Et il y a cette forme comme ça, un peu avec l'équateur bombé. Et on va voir pour quelle raison. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de cailloux autour de cet objet. Il y a des cratères, il y a beaucoup de structures sur la surface. Donc, en étudiant ces objets-là, vous voyez, on arrive à faire l'étude comme les géologues, comme sur Terre. On peut voir toute la variation des morphologies, la dégradation, les différents cratères, les cailloux qui sont sous les cratères, les mouvements du régolithe. Donc, il y avait cet mouvement qui allait vers l'équateur. Donc, on voit qu'il y a des zones qui sont plus fraîches des autres. Il y a des cratères qui sont remplis des matériaux. Et donc, sous la base de tout ça, on peut donner un âge à la surface de Ryugu, de l'astéroïde Ryugu, et ça entre 0,18 ou 6 millions d'années. Donc, c'est une surface très, très jeune. Mais alors, le but, c'est savoir où il s'est formé, qu'est-ce qu'il contient, quelle est sa composition, etc. Donc, la mission de la JAXA, il ne s'est pas mis autour de l'astéroïde, parce que ce sont des objets de très petite masse, donc sont une gravité pratiquement très petit et c'est très complexe. Donc, il s'est mis celle qu'on appelle hovering à côté de l'objet et il l'a suivi pendant toute son orbite. Et donc, de cette altitude qu'on appelait home position, c'est la position des maisons de le spacecraft pendant les plusieurs années qui étaient à côté de l'astéroïde, il pouvait s'approcher. Donc, l'image que vous avez vue avant, c'est à 20 km. Celui-là, c'est à 6 km. Et donc, on peut voir beaucoup plus de détails jusqu'à s'exposer quand il y a eu le prélèvement des échantillons, etc. Donc, qu'est-ce qu'on voit depuis des spectres, depuis les spectromètres? On voit un spectre ici en noir qui est plutôt plat avec une petite signature à 2,7. Cette signature, quand on compare, ça ressemble à aucune des météorites qu'on a sur Terre. Parce que quand même, il y a une grosse différence entre les météorites et les objets qui sont dans l'espace. Les météorites, ils arrivent sur Terre, ils ont subi des transformations. Donc, on fait des associations, mais ce n'est jamais identique. Et donc, c'est qu'on pense que là, par exemple, avec les analogies, que la météorite Ivuna, celle qu'on classe comme les CI, c'est soit la météorite la plus proche, mais plutôt réchauffée à certaines températures pour avoir une spectroscopie plus semblable. Donc, je vous ai dit qu'il y avait un petit lander qui s'appelle Mascotte, fait par les Kleins, les Deller. Et là, c'est les rovers. J'adore montrer cette image parce que là, c'est les spacecraft. Vous voyez, on voit l'ombre du spacecraft sur la surface de l'objet. C'est 4 mètres pour 6. Et après, on voit aussi quand on a livré, il a fallu aller vraiment très très proche parce que sinon, comme il y a une petite gravité, il serait envolé les petits rovers. Et donc, il a fallu aller vraiment très très proche, les laisser. Et là, on voit les points. C'est notre rover, et là on voit l'ombre vue dans les caméras qui sont à bord du spacecraft. Donc il y avait des instruments, ce sont des images, on voit des grandes structures, etc. Et il y avait aussi un spectromètre qui malheureusement il n'a pas donné des informations parce que le rover il n'était pas vraiment bien posé sur la surface, donc il n'a pas pu marcher, pas mettre la focale pour avoir les images. Donc dans cette mission extraordinaire des Japonais, il y a eu même des impacts. Donc l'idée c'est de prélever des échantillons d'un côté, mais les prélever aussi après un impact pour voir si de la matière fraîche à l'intérieur, c'était différent. Pour étudier tout ce que sont les altérations dues à l'effet que l'objet sont dans l'espace, celle qu'on appelle en français space weathering, altération spatiale. Donc, comme vous voyez là, il y avait un petit impact qui faisait 2,5 kg avec une explosive qui a fait un cratère là sur la surface de l'objet à peu près de 10 mètres. Et on voit des éjecta, etc. Donc, le but, c'était d'étudier avant et après. Et par exemple, si vous regardez dans le spectromètre qui est à bord de la sonde spatiale, on voit qu'il y a des petites variations très subtiles, parce que la bande est tout petite, mais il y a un chiffrement de la bande et aussi une bande qui change de profondité. Et ça implique que les matériaux qui étaient à l'intérieur, c'était beaucoup plus fraîche et donc moins altérés de celles qui étaient à l'extérieur. Donc là, on a pris des échantillons. Là, je vous montre le mécanisme qui est là, qui fait voir comme les bras qui descendent, et vous voyez là les spacecraft qui s'approchent à la surface. Il y a un petit projectile, un autre projectile tout petit qui fait bouger les matériaux, et du matériau, il rentre dans le container du spacecraft. Donc là, vous voyez, c'était la sonde, elle était descendue à 52 cm par seconde pour prélever les... Et vous voyez aussi l'ombre de la sonde sous la surface de l'astéroïde. Donc là, je vous montre ce petit film parce que je trouve que c'est exceptionnel voir comme, une fois qu'on met tous les échantillons dans la rentrée capsule, la rentrée capsule est lancée une fois que l'espèce s'approche à la Terre et il traverse l'atmosphère et on voit comme une étoile filant. Hein. Là, on voit comme une étoile filant qui passe dans les ciels. Et donc, je voulais vous montrer ça parce qu'on voit l'excitation de notre collègue japonais au moment du retour de cet échantillon. C'était une première unique. Et vous voyez donc cette rentrée capsule qui est lancée dans les déserts en Australie. Et là, il y a un petit parachute avec les containers qui est tout petit, cette capsule qui doit être faite avec du matériel très sophistiqué pour rentrer dans l'atmosphère et pour ne pas se détruire. Et donc, vous voyez la tension au prélèvement, l'émotion, c'était vraiment des moments... Et vous savez, là, il espérait d'avoir pris 0,1 gramme parce que c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Avec ces 0,1 gramme, on peut avoir beaucoup, beaucoup d'informations sous l'origine, sous la formation de cet objet. Donc là, c'était la rentrée capsule qui rentre dans l'hélicoptère, bien entourée, protégée, pour après la lancer, la faire retourner à Tokyo, dans la salle de la JAXA, où il fallait l'ouvrir avec toute une protection, parce que c'est du matériel qui n'était pas contaminé, il ne faut pas qu'il soit contaminé de l'atmosphère terrestre. Et donc là, vous voyez l'excitation. Mais là, dans cette image, je voulais aussi vous montrer pour voir comme c'était petit quand même. Et ça, c'était la capsule qui est rentrée, qui a traversé l'atmosphère. Donc, une fois que cette capsule était rentrée, on l'a mis dans la salle, celle qu'on appelle les salles propres, où il n'y a pas de contamination ni rien, pour faire toutes les analyses, voir qu'est-ce qu'il y avait, quels étaient les contenus et analyser. Et il y a aussi une chose, que tout cet échantillon, normalement, la moitié est conservée par la postérité, parce qu'avec la postérité, on peut avoir des instruments plus évolués, donc on ne va pas répéter une mission, mais on peut avoir du matériel qu'on peut réanalyser, des instruments qui ont des évolutions de plus en plus. Et l'autre moitié, il est distribué dans tous les laboratoires du monde entier. Alors, quand vous allez voir, on a eu les grands succès, parce qu'à la place des 0,1 grammes, il y a eu 5,4 grammes, donc il y a eu un succès énorme de cet échantillon. Il y a les deux containers, les deux petites boîtes qui contenaient, donc, et vous voyez, c'est aussi des dimensions différentes, des tailles. Et là, il y avait dans cette flèche-là, il y a du matériel qui c'est de l'aluminium, qu'on ne sait pas si c'était dû du mécanisme, d'où se venait cet matériau-là. Donc, quels sont les résultats? Je vous résume vraiment très brièvement les premiers résultats. Mais comme vous savez, donc, c'est arrivé en 2020. Tout ça a été classé. Il fallait tout classer, pièce par pièce, etc. Séparer, garder, faire des appels à tous les scientifiques et distribuer ça dans le monde entier. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert de tout ça? On a découvert donc que Ryugu, c'était un ensemble. Comme vous avez vu avec tous ces cailloux, ce n'est pas un objet primaire, mais c'est un ensemble de matériaux qui se sont reformés et ils ont formé ce qu'on appelle rubble pile, un ensemble de cailloux mis ensemble et qui sont mis ensemble par gravité, hein, comme vous avez vu dans les premiers films que je vous montrais au début. Donc les films et les hypothèses qu'on fait ne sont pas fausses. Les matériaux de Ryugu, c'était les plus primitifs qu'on a à disposition aujourd'hui, parce qu'il ne s'est pas altéré avec la Terre, il n'a pas vécu comme les météorites quand ils tombent, ils ont l'altération du lieu où ils vont tomber, ils ne sont pas ramassés tout de suite. Et à toute façon, il y a aussi toute l'atmosphère et les passages de l'atmosphère une fois qu'ils tombent sur Terre. Et l'autre chose, c'était qu'il contenait beaucoup plus de carbone, d'hydrogène, d'azote, que les conduites carbonées associées aux astéroïdes. Après, quand on regarde aussi, tu sais que c'est la concentration des gaz nobles primitives primordiales, comme l'argon, les cryptons, les xénons. Quand vous regardez ici, là, il y a tous ces petits points sur les différents météorites, les contenus de ces trois gaz dans les météorites, chondrite carbonée, hein, CI, CM, etc. Les deux échantillons, donc, on appelle A et C, parce que c'était les deux prélèvements faits sur des zones différentes, vous voyez qu'il y a les contenus les plus riches de tous les trois éléments. Et aussi, qu'est-ce que c'est exceptionnel? Ça semble que cet objet s'était formé dans les systèmes solaires externes. Il n'a pas subi des chauffements très élevés. Il n'y a pas du matériel qui, normalement, il faut que se forme à température très élevée. Et donc, on pense aussi qu'il y avait à un certain moment de l'eau, parce qu'on trouve les phyllosilicates, donc il y avait eu, qui sont des éléments qu'on appelle dus à l'altération aqueuse. Donc ça veut dire qu'il y avait un moment dans l'objet d'Ryugu, ou dans son corps parent, de l'eau à l'état liquide qui a permis certaines formations des minéraux. Et pour conclure, donc, les résultats de cet échantillon, c'est que donc, les matériaux de Ryugu sont les plus pristines du système solaire. C'est semblable à les chondrites qu'on appelle CI comme Ivuna, mais avec un contenu d'organique très différent. On a trouvé du matériel pré-solaire, on a trouvé des matériaux inorganiques comme les hydrocarbones, les aminoacides, et on a trouvé plus de 10 différents types d'aminoacides. Et donc, vraiment, on pense, alors, entre les différents résultats, il y a aussi l'effet qu'on a beaucoup moins d'oxygène que les météorites de type CI, comme Urgaï et Ivuna, qui sont les météorites les plus primitives du système solaire. Et donc, tout ça, ça nous porte à reconstruire toutes les modélisations de notre système solaire, toutes les datations, etc. Donc, vous voyez, comme quelques grammes des matériaux, ça peut aider à redéfinir l'évolution de notre système solaire. Alors, naturellement, les analyses sont encore en cours. Hein. C'est ça, sont tous les premiers résultats. Là, il y a encore un numéro de sciences qui va sortir avec tous les nouveaux résultats. Mais juste pour vous résumer, donc, il y a la nébuleuse protosolaire là en haut, les soleils, donc il y a la formation des Ryugu, mais c'est ce qu'on appelle les corps parents des Ryugu. Les corps parents, il y a eu l'altération aqueuse, il y a eu des collisions, il y a eu des fragmentations, des réagrégations de la matière, jusqu'à arriver à ce que c'est la forme des Ryugu. Donc c'est un ensemble de cailloux réagrégés après des collisions. Et dans l'orbite plutôt lointaine, il s'approchait à l'orbite qui était l'orbite d'aujourd'hui, tout près de la Terre. Donc, et tout ça, il y a eu une migration il y a à peu près plus que 5 millions d'années. Et là, une fois qu'il est à côté du Soleil, il y a eu tous les réchauffements et les altérations à côté du Soleil, sous la surface du Ryugu qu'il est aujourd'hui. Alors ça, c'est la mission de la JAXA, mais il y a eu une même mission de la NASA, l'Agence spatiale américaine, lancement 2016, arrivé vers fin 2018, resté jusqu'au 2021 autour de l'astéroïde Bennu, avec les échantillons, prélèvement d'échantillons, et les échantillons qui vont arriver en septembre de cette année. Alors, comme vous avez vu là, on vous avait mis l'échelle pour voir la dimension de la sonde, la NASA, c'est la grande agence spatiale américaine, très puissant, il fait des structures beaucoup plus grandes, c'est beaucoup plus costaud la mission, mais il y a beaucoup moins de miniaturisation, il y a beaucoup moins d'instruments, il n'y a pas de rovers, il n'y a pas de petites boîtes avec tous les instruments qui ont donné des résultats, que je vous avais parlé la dernière fois, mais c'est une mission où il y a simplement, vous voyez là, c'est la rentrée capsule, beaucoup plus grand, les antennes et tous les différents instruments qui sont les caméras, parce qu'il faut quand même des caméras, des spectromètres, c'est vraiment la base pour la caractérisation des objets. Alors, quels sont les résultats principaux de cette mission? Bennu, il est plus petit, il fait 500 mètres de diamètre, mais plus ou moins, on a découvert un objet qui a la même forme. C'est quand même bizarre. Et là, on a une résolution de 33 cm par pixel. La NASA s'est mise autour de ces objets dans des orbites très particulières pour rester en orbite, donc ce n'est pas une orbite tout à fait circulaire, mais il a créé à différentes distances pour s'approcher quand il fallait après s'éloigner, mais il s'était mis autour de l'objet. Donc il a une surface très sombre avec un albédo très semblable à celle du Ryugu. une densité aussi très basse, de 1,19. Et là aussi, vous voyez des cailloux de différentes couleurs, beaucoup plus brillants et beaucoup plus sombres. Alors, pourquoi ces objets ils ont cette forme pareille tous les deux? Alors, tout ça, c'est dû à l'effet qu'on appelle l'effet de Yarp, et c'est dû au réchauffement solaire qui accélère la rotation de ces objets, qui sont une amasse des cailloux, comme on a dit. Hein. Ce ne sont pas les objets grands, mais c'est vraiment la réagrégation après des collisions. Et l'accélération due au Soleil, ça fait aplatir cet objet. La matière, les cailloux du pôle, ils vont vers l'équateur. Ils vont avoir cette forme comme ça, plus bombée à l'équateur, avec une matière plus primitive au pôle et peut-être plus évoluée, plus altérée par les temps passés dans l'espace vers l'équateur. Donc là aussi, vous voyez des cratères, vous voyez des cailloux qui sont accrétés, comme vous voyez là. Donc c'est vraiment, ça, tout ça, ça confirme cette idée des rumble pile, des matières accrétées ensemble. Donc cet objet aussi, c'était semblable au chondrite carboné, mais dans ces cas-là, c'est plutôt vers les SEM que les CI, avec une bande, comme vous voyez, c'est très différent, la bande spectrale à 2,7. Et là aussi, ça semble à des CM plutôt réchauffés. Donc là, bon, c'est le spectre, il y avait un spectromètre qui arrivait à des longueurs d'onde plus longues. Et là aussi, on fait des analyses en regardant l'étude des bandes pour trouver des analogies. Ben, bien sûr, tout ça sont des études, mais c'est jamais comme les échantillons qu'on peut avoir et étudier en détail, parce que là, ça donne des informations très grossières. Mais avec toutes ces informations, par exemple spectrales, là, bon, c'était mon étudiant Alice Prey qui avait fait cette analyse très intéressante en mesurant les profondeurs et l'analyse de la bande déshydratée, donc cette bande à 2,7. Regardez les contenus d'âge sur toute la surface de l'objet où on voit qu'il y a des matériaux avec plus de profondeur ici vers les pôles et moins vers l'équateur. Donc ça implique cet effet qu'il y a de la matière plus fraîche au pôle qu'à l'équateur. Et donc dans l'étude, il semble plutôt vraiment comme une SEM réchauffée. Et là, vous voyez, on regarde déjà, on trouve déjà des organiques. Hein, des organiques qu'on sait que sont des organiques, mais on n'a pas la capacité de les voir. Donc on attend les échantillons qui arriveront pour étudier en détail tout ça. Mais alors, une grande découverte qui était faite à Bennu, c'est qu'il y avait une activité. Bennu, que c'est un astéroïde très sombre, des roches, de la matière très sombre. Si vous regardez là, petite, il y a de la poussière. Cette poussière qui sort comme une comète, hein, ça semble vraiment comme une activité cométaire. C'est des particules qui s'échappent de l'intérieur de la surface, mais ce n'est pas dû à la glace, il ne peut pas y avoir la glace à cette distance du Soleil, mais c'est dû volatile, des matériaux très léger qui s'étend à l'intérieur et les températures plus chaudes à côté du Soleil, il fait des craques sous la surface et il fait sortir ces matériaux. Donc vous voyez les limites entre cet astéroïde et comète, ce n'est pas si clair, ce n'est pas si net. Il y a des activités et on découvre de plus en plus des astéroïdes actifs qui ne sont pas des comètes. Donc en regardant toutes ces surfaces, je ne rentre pas dans tous les détails, ce ne serait pas nécessaire aujourd'hui, mais on arrive à étudier l'histoire. Donc, par exemple, là, on a trouvé du matériel exogène sous la surface de Bennu qui venait de l'extérieur. Parce que vous voyez des taches là, si brillantes. Ce n'est pas la glace comme dans la comète, mais c'est des restes de collisions, des matériaux qui l'ont impacté et qui a laissé des traces sur la surface. Donc, grâce à tout ça, on peut construire l'évolution de ces objets. Hein. Donc, il y a les corps parents, la fragmentation, l'agrégation, mais aussi les projectiles des autres objets avec des compositions complètement différentes. Donc là, le spectromètre à bord de la mission Osiris-Rex, il arrivait jusqu'à 4 microns, donc on pouvait étudier toutes les bandes des organiques qui sont à des longueurs d'onde entre 3,3 et 3,5. Et là, on voit qu'il y a des carbonates et des organiques. Des fois, on arrive à les séparer, des fois, ils sont mélangés ensemble. Et donc, on attend vraiment les échantillons pour l'étudier beaucoup plus en détail. Donc, juste pour vous montrer la différence entre les deux missions, Je voulais vous montrer les mécanismes de la sonde américaine, qui ont une expérience décennale. Vous savez, les missions Apollo qui sont allées sous la Lune dans les années 70, ben, ils ont porté des kilos et kilos d'échantillons, mais c'était la dernière fois qu'on a reçu des échantillons sur Terre. Et là, c'était l'homme qui a pris et qui avait ramené. Maintenant, c'est des robots qui vont et qui prélèvent des échantillons. Donc, le mécanisme est complètement différent. Il y avait de l'azote qui a poussé, et cet azote qui pousse, qui rentrait, vous voyez, dans cet échelon-là, il faisait bouger, et tous ces matériaux, ils rentraient à l'intérieur, étaient prélevés. Donc, prélever les matériaux, il les met dans les bras. Là, vous voyez les bras qui descendent, qui se posent sur la surface, qui prend les échantillons et qui après il les remet dans la rentrée capsule. Alors, dans tout ça, les pieds qui descendaient, comme vous voyez, il y a aussi, à part tout ce qui est rentré, il y a des petites particules de la dimension de 3-4 mm qu'on peut voir sous les pieds qui étaient descendus sur la surface. Donc là, on estime, comme vous voyez, tout est beaucoup plus grand par rapport à la mission japonaise. On estimait, la mission était faite pour prendre 60 grammes au moins, et dans ce qu'ils ont estimé, il doit avoir pris 400 grammes. Donc là, il y aura encore plus de détails, et on pourra détruire les échantillons pour les analyser et utiliser des techniques aussi différentes. Donc là, je voulais juste vous montrer la surface. C'était Nightingale où on a eu les premières. On a prélevé les échantillons. Et là, jusqu'après, donc on voit les trous des échantillons pris. On voit que c'est changé, que les cailloux se sont déplacés, qu'il y a eu un changement. Et quand on a regardé, donc dans les cas de la mission Osiris-Rex, il y a eu seulement une fois que la sonde est descendue. Et après, c'est tout de suite reparti pour émettre, pour ne pas avoir de risques. Ils ont observé avant-après et ils ont vu qu'effectivement, la surface après les prélèvements, c'était différent. Il y avait un spectre beaucoup plus rouge avec des bandes organiques présentes et donc probablement un matériel beaucoup plus frais. Alors, aujourd'hui comme aujourd'hui, les échantillons sont dans la capsule qui est en train de retourner sur Terre. Elle sera livrée le mois de septembre de cette année. Et cette capsule sera lancée dans les déserts de l'Utah. Et toute cette capsule sont faites avec un matériau qui c'est très résistant. Il doit résister à des températures de 5300 degrés Fahrenheit. Que si vous imaginez, parce que c'est la vitesse supersonique de l'entrée dans l'atmosphère et l'impact sur Terre. Mais tout ça, il y a aussi des parachutes pour ralentir une fois, pour ne pas avoir la collision avec la Terre quand il arrive sur Terre. Donc voilà, ça sont les deux missions. Mais l'histoire n'est pas finie là. C'est les périodes de ces missions de retour d'échantillons, parce que c'est si important. Donc c'est, et pour ça, la JAXA, il est en train d'étudier une autre mission qui s'appelle MMX, Martian Moon Exploration Mission, donc c'est une mission qui va aller vers les systèmes martiens, qui va se mettre en orbite autour de Mars, mais en réalité, il se met en orbite autour de... Vous savez, il y a deux satellites, Phobos et Deimos. Il se met autour de Phobos. Dans cette orbite autour de Phobos, ici, il continue l'orbite autour de Mars. Il y aura un atterrissage sur la surface, un prélèvement d'échantillons, et on aura le retour d'échantillons sur Terre. Donc, juste pour vous dire quelque chose, ça c'est le futur, lancé en 2024. Nous, on participe à cette mission avec le spectromètre MIRS, qui est développé au LESIA. Moi, je suis le principal investigateur de cet instrument. Et on a démarré en 2020, jusqu'en plein Covid, et on doit livrer là, le mois de juin, pour le lancement de l'année prochaine. Donc, vous imaginez la course de la technologie et les efforts à faire. Et sous cette mission, donc, il y a tous les caméras, les spectromètres, spectromètres de masse. Il y a un petit rover aussi du CNES et d'ILR, des Allemands, fait à simple, de la tradition des Pufilei sur Rosetta, Mascotte sur Bouzodo. Là, il y aura les rovers encore français et allemands. Et il y aura aussi deux mécanismes des échantillons. En rouge, c'est un mécanisme de la NASA. Donc, jusqu'aux deux mots sur le spectromètre qu'on est en train de faire, c'est fait à l'Observatoire de Paris, donc on est très fiers. Et et c'est signé par les présidents de la République à l'époque avec les présidents du Japon. Et ce spectromètre, donc, il va observer entre 0,9 et 3,6 microns avec une très grande résolution, un très grand signal sur le bruit, et essayera vraiment de caractériser les deux satellites et Mars. Et l'effet d'avoir la surface de Phobos est très proche à Mars, il pourrait avoir aussi quelques poussières martiennes éventuellement. Donc, quel est le but de cette mission? Le but de cette mission est comprendre l'origine des satellites martiens, comprendre toute la formation, donner les constraints de la formation planétaire et tous les transports entre les matériaux externes, les matériaux intérieurs et les matériaux extérieurs. Parce que, comme vous savez, Mars est là et les deux satellites sont là. Donc, ça peut vraiment porter beaucoup d'informations. Et donc étudier aussi tous les systèmes autour de Mars, l'environnement martien. Alors pourquoi il faut comprendre l'origine de ces deux objets? Parce qu'en réalité il y a un grand débat encore, on ne sait pas comment ils sont nés ces deux objets. Donc il y a une hypothèse qui sont des astéroïdes capturés, et quand on regarde l'espèce, ça semble vraiment comme des objets, comme des astéroïdes. Ils ont des spectres comme des conduites carbonées, comme des astéroïdes très typiques, mais ils ont des orbites trop peu excentriques et très peu inclinées pour expliquer l'effet d'avoir une capture. Et par contre, l'autre hypothèse, c'est l'origine par impact, mais ça va expliquer plus facilement l'orbite, mais c'est plus difficile d'expliquer pourquoi ces objets sont comme les astéroïdes de type CD. Et donc tout ça, c'est très complexe. Et si on pense à ces deux objets, Phobos et Deimos, ils sont à peu près de 27 et 15 km de diamètre, ils ont une densité très bas, donc ils doivent avoir beaucoup de porosité comme les astéroïdes qu'on a vus tout à l'heure. Et donc on voit s'ils sont des roches avec une très grande porosité ou s'ils sont des glaces avec un intérieur plus intense, etc. Donc nous, avec notre instrument, on pourrait étudier toutes les caractéristiques spectrales. Vous voyez, l'instrument qui s'appelle donc MIRS, il va observer entre 0,9 et 3,6. Et cet objet, Phobos, il a deux côtés très différents. Un que vous voyez, c'est ici représenté en rouge et l'autre qui est en bleu. Tout ça, c'est depuis les derniers résultats des autres missions, parce que toutes les missions qui sont allées sur Mars, ils ont essayé d'étudier Phobos et Deimos, mais naturellement avec beaucoup moins de résolution et tout, parce que l'objectif principal, c'était Mars. Donc là, pour la première fois, l'objectif principal, c'est Phobos. Et donc, étudier la bande, qui, comme vous avez vu, que c'est très important, 2,7-3, mais étudier aussi tous les organiques qui sont ici et voir quel est le contenu de cet objet. Donc, l'instrument MIRS, il va aider dans les choix des sites. Une fois, pendant les 3 ans qu'on observera à différentes caractérisations, et on pourra aussi étudier la température et l'inertie thermique avec cette partie spectrale duothermique. Alors, l'objectif, comme je disais, c'est les organiques. Hein, comme on a vu, il y a les organiques sur la comète. Ça, ce sont des organiques observés sur Ryugu, sous les échantillons, une fois qu'ils sont revenus sur Terre. Et là, ce sont les organiques qu'on a déjà observés sur Bennu, qu'on aura encore plus de détails. Les deux échantillons, là, les autres missions, comme on disait, c'était des touch and go, ça veut dire ils touchaient et repartaient tout de suite, ils restaient quelques secondes sur la surface. Ces mécanismes-là, ils vont rester pendant 3h30 sur la surface, et l'objectif est de descendre au moins de 2 cm pour prélever des échantillons à l'intérieur. Et donc, il y a un mécanisme qui va descendre, et l'autre, c'est un pied de la NASA qui va récupérer du matériel sur la surface. Et le but, c'est de récupérer au moins 10 grammes. On verra ce qui ça va revenir, et tout ça sera en 2029, hein, avec la mission qui sera lancée en 2024 et retour en 2029. Donc là, c'est les pieds de la NASA, et là, c'est le mécanisme de la JAXA qui va rentrer quelques centimètres. Donc là, pour terminer, je vais vous montrer jusqu'à ces petits films qui ont fait la JAXA sous la mission. Et ça vous donne vraiment l'idée de l'extraordinaire aventure qu'est les scènes spatiales et qui sont cette mission. Ça fait vraiment des voyages et des découvertes exceptionnelles. Donc là, c'est la sonde qui se sépare de la propulsion, donc ouvre les panneaux solaires. Donc vous voyez la Terre à côté après le lancement. La sonde qui va dans son voyage pour arriver au système martien. Il arrive au système martien. Vous voyez là Mars et Phobos. Et donc la sonde va se mettre en orbite, ça s'appelle l'insertion d'orbite dans le système martien. Donc il se met autour de Phobos, mais il y a aussi toute l'orbite autour de Mars. Donc là, il y a la séparation de la propulsion et là, l'explorer, la partie qui va aller sous la surface de Phobos, je pense qu'on va les revoir là, voilà, qui va descendre, vous voyez les pieds, et il va se poser sous la surface. Donc, c'est cette partie-là qui a tous les instruments avec les panneaux solaires qui font les caractérisations, mais là, il y a les pieds, il y a les mécanismes que vous voyez qui rentrent, qui essayent de prélever. Il y aura deux fois dans deux sites différents de Phobos. Et là, vous voyez les moteurs qui repoussent. Il faut la pousser des moteurs pour repartir de Phobos. Phobos est beaucoup plus grand que les autres astéroïdes parce qu'il fait au moins 30 km de diamètre. Une fois que les échantillons sont mis dedans, on les met dans la rentrée capsule. Et comme vous avez vu dans les autres missions, la rentrée capsule retournera sur Terre en 2029, si tout va bien. Et là, c'est la rentrée capsule qui rentre dans l'atmosphère terrestre. Donc ça, c'est les futurs. Donc on attend les échantillons en septembre pour la mission de la NASA. Et il y aura des nouveaux échantillons. Et ça rend, dans certains sens, les Japonais sont très fiers. Parce que ce sont des missions qui ne coûtent pas très cher. Elles ne sont pas si chères comme les missions de l'Agence spatiale européenne ou l'Agence spatiale américaine. Ça coûte beaucoup moins cher, mais ils sont vraiment très productifs et ils apportent beaucoup de résultats. Donc, moi, je voudrais conclure cette présentation en vous disant un petit résumé pourquoi ces objets sont importants. Parce que dans cette analyse des objets primitifs, on peut trouver ce qu'on appelle des grains présolaires. Et tout ça, c'est très important pour comprendre toute la nucléosynthèse et l'évolution des étoiles. Donc, vous voyez, ça apporte pas que des informations sur ces objets dans notre système solaire, mais aussi sur les étoiles. Il peut avoir des grains interstellaires, il peut avoir du matériel organique, donc c'est très important pour le milieu interstellaire. C'est très important pour connaître la nébuleuse protosolaire et comprendre tous les processus d'accrétion et tous les temps qu'il a fallu pour former les objets et toutes les différentes évolutions. Comprendre la formation planétaire, donc les systèmes solaires internes, les systèmes solaires externes et toutes les différentes hypothèses, parce qu'encore aujourd'hui, on fait beaucoup des études sur les autres systèmes planétaires qui nous aident à comprendre le système solaire, mais il y a encore beaucoup de théories qui ne sont pas très claires aussi. On parle des migrations, pas migrations, etc. Donc tout ça, c'est très important. Mais aussi, donc, ça nous permet aussi d'étudier les astéroïdes et toute l'histoire, l'accrétion, mais aussi les processus d'altération qu'il y a eu une fois qu'ils sont dans l'espace, pas seulement avec les collisions, mais aussi avec les rayons cosmiques et les altérations spatiales, et aussi tous les impacts, les études du régolithe, et étudier donc aussi, comprendre sur Terre qu'est-ce qu'ils ont fait ces impacts et quelles sont les conditions important pour la vie et quels étaient les matériaux importants pour la vie qui est arrivée sur Terre. Donc voilà, moi je vous remercie et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup de votre attention.
Merci beaucoup Antonella. Donc, il y a déjà quelques commentaires sur les questions sur le chat. Peut-être je peux commencer avec une question dans la salle, si on a déjà une. Sinon, j'en vois pas trop pour l'instant. Alors, je passe sur une qui est sur le chat. Il y avait une question qui était de savoir, est-ce que dans tout ce matériel qu'on récupère donc de ces astéroïdes, est-ce qu'il y a du matériel radioactif? Est-ce qu'il y a ce type de mesure qui est fait?
Il n'y a pas du matériel radioactif sur les astéroïdes, non.
Tu peux en dire un petit peu plus, pourquoi il n'y en a pas, justement?
Pour créer du matériel radioactif, qu'est-ce qu'il faut? Hein, quelle est la question, quelle est la réponse à ton avis?
Je t'écoute.
Non, alors ces objets sont autour du Soleil, il y a l'influence du Soleil, mais le Soleil, à cette distance des objets, c'est comme la Terre. Ils sont, par exemple, dans le cas des objets très, Joe Crozer, mm-hmm. ils sont plus ou moins à la même distance du de la Terre du Soleil. Donc, ils n'ont pas du matériel qui peut être différent de celle qui est sous la Terre. S'il vient, il vient de la ceinture des astéroïdes beaucoup plus longtemps, il n'y a pas du matériel radiatif qui peut venir. Alors, est-ce qu'il y a des étoiles extérieures qui peuvent... Mais non, les distances sont énormes. Mm-hmm. Donc, il y aura sans doute des mesures qui vont voir tout ça. Mais pour ça, par exemple, une fois que ces objets ils arrivent sur Terre, ils sont mis dans... Ils sont hyper protégés, ils font des analyses hyper protégées, mais on n'a jamais parlé, j'ai jamais entendu parler des matériaux radiatifs sous les astéroïdes ni sous les échantillons.
D'accord.
Mais c'est une question intéressante. Mais normalement, ça n'existe pas.
Oui. Alors, il y a un commentaire dans la salle, vous n'avez pas de micro, qui disait justement il y a de l'uranium sur Terre, il y a du matériel radioactif sur Terre.
Oui, oui, oui. Mais bon, il n'y a pas de l'uranium sous les astéroïdes, dans celles qu'on connaît aujourd'hui. Mais peut-être, il y aura des mesures pour voir, hein, sans doute. Mais je ne crois pas qu'il y a de l'uranium. Hein.
D'accord.
Ça veut dire, par exemple, sur Terre, je pensais à des astéroïdes qui sont formés beaucoup plus lourds, qui sont différenciés et tout. Peut-être il pourrait y avoir quelque chose. Mais ces objets-là qui sont formés des chondrites carbonées, donc des matériaux beaucoup plus légers et plus. Et tous les météorites qui sont arrivés sur Terre, ils n'ont jamais eu du matériel radioactif. Tous les météorites qui sont sur Terre. Donc là, sont des objets encore plus primitifs et moins altérés. Donc, ça dépend des types de différenciation. Marcello, qu'est-ce que tu veux dire? Dis quelque chose, tu veux parler?
Alors, attends, je te passe le micro, ouais. Marcello. Un autre commentaire?
Je pense que, surtout, c'est le fait que la quantité de matière pour obtenir des matériaux radioactifs, dans le sens de mettre dans une centrale nucléaire ou quelque chose de semblable, c'est vraiment minimal par rapport à ce qu'on a sur Terre.
Bon, de toute façon, c'est quelque chose qu'on n'a si, jamais...
Peut-être qu'on peut trouver des atomes, oui, d'uranium ou des atomes, sûrement. Mais pour ça, il faut avoir les échantillons dans le laboratoire pour longtemps, éliminer tous les possibles parties qui vont cacher...
Façon... Sur tous les chondrites carbonées qu'on a eues jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu du matériel radioactif, que je sache. On n'a jamais entendu parler de ça. Alors, sous des composants différents, mais même les météorites métalliques ou les choses avec des matériaux plus lourds, on n'a jamais trouvé des choses de ce type.
C'est noté. Il y avait des questions par là ou des commentaires dans la salle.
Mais sans doute, s'il y aura quelque chose, on va les découvrir, hein. Ça, c'est les buts des découvertes.
Bonsoir. Je pense que ces astéroïdes ont une gravité extrêmement faible. Y a-t-il des procédés spécifiques pour l'ancrage de tout ce qui se pose sur eux?
D'ancrage?
D'ancrage, parce que pour ne pas...
Alors, quand il y a eu la mission Rosetta... La mission Rosetta, il s'était mis en orbite avec des orbites très particulières autour de la comète, parce qu'on ne connaissait pas la masse, on ne connaissait pas vraiment la forme de la comète. Et il voulait poser Philae, les rovers sur la mission Rosetta. Et cette rover qui avait des pieds, c'était avec des pieds et tout, au pied, il y avait des ancrages pour se bloquer sous la surface de la comète. Mais ces ancrages n'ont pas marché, parce qu'en réalité, c'était fait dans un laboratoire allemand, et après 15 ans de voyage, et dû à l'effet qu'il y avait une gravité différente, ces ancrages n'ont pas fonctionné. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Une fois que le filet est arrivé sous la surface, il a fait plusieurs sauts, etc. La mission pour Yabusa 1, la même chose, il y avait un petit rover qui était lancé pour atterrir sur la surface de l'astéroïde, mais qui n'est pas jamais rentré, arrivé pour se poser parce qu'il y avait si faible gravité. Donc pour ça, les deux missions, Hayabusa 2 et Osiris-Rex, ils ont fait ce qu'on appelle toucher et repartir avec des mécanismes qui travaillaient dans quelques secondes pour prélever les échantillons. Donc là, ça dépend de la masse de l'objet. Dans les cas de Phobos, la masse est plus importante. Donc c'est plus facile. Après, il y a par exemple, les gros problèmes martiens qu'on pourrait arriver sur la surface de Mars. On peut avoir des rovers qui se promènent sur la surface, mais après c'est très compliqué de repartir. Il faut une technologie qu'on n'a pas encore à disposition. Et pour ça, on n'a pas encore les échantillons martiens sur Terre. On ne pourra pas les avoir dans le temps proche. Et donc, les Japonais sont très fiers parce qu'ils pensent qu'avec cette mission, on peut avoir des échantillons peut-être d'un astéroïde, mais aussi peut-être de la poussière martienne, du système martien pour la première fois sur Terre. Donc tout ça, c'est une discussion. Ils veulent être les premiers à arriver. Ils font tout pour lancer en 2024.
OK, merci. Une autre question qu'il y avait tout à l'heure sur Internet. On voit les images là, très impressionnantes là, de la mission japonaise, là, quand ça se pose et que ça récupère du matériel. On a l'impression qu'il n'y a pas trop de poussière fine quand ça se passe comme cela.
Oui.
Est-ce que c'est bien le cas? Et est-ce que dans ce cas-là, ça donne des informations sur le mode de formation de ces
colons? Alors, l'effet de la poussière fine, c'est quelque chose qu'on a trouvé qu'il n'y a pas ni sur Ryugu, ni sur Bennu, c'est dû vraiment à cette gravité si faible. Donc la poussière fine, il n'est pas arrivé à se poser sur la surface. Donc on ne voit plus cette masse de cailloux et pas de poussière sur la surface.
D'accord. Il y avait d'autres questions.
Donc c'est très important. Ça veut dire avec tout ça, on fait des études de géologie, d'analyse des différentes structures de la surface. Et on arrive à comprendre comment ils se sont formés et toute leur évolution.
OK, merci. Une autre question dans la salle?
Merci pour la présentation. Je me demandais comment les zones de prélèvement ont été choisies. Est-ce qu'elles sont définies à l'avance?
Les buts de ces deux missions, que c'était Hayabusa 2 et Osiris-Rex, c'était d'étudier la matière la plus primitive. Donc prendre des zones où on pensait que c'était les plus primitives de tous les objets, de toute la surface de l'objet. Mais en même temps, il y a les ingénieurs. Et les ingénieurs, ils disent, mais non, il faut avoir un lieu qui ne pose pas de risques, parce qu'il y a un emparque le caillou, ou un caillou qui fait poser la sonde pas exactement comme il faut pour faire marcher bien les prélèvements. Ça peut faire bousculer la sonde, ça peut faire... Donc il faut aller des zones très très précises, et aussi l'atterrissage, ce n'est pas si évident dans les choix de la zone, parce que si on choisit cette zone-là, bon, la précision, c'était de 50 mètres, par exemple, au début. Après, ils sont arrivés à faire une précision incroyable avec des petites... Par exemple, les Japonais, ils lançaient une espèce de réflecteur qui donnait la direction pour essayer de s'approcher le plus possible au site. Mais donc, il y a la science... Donc la science, c'est la matière plus primitive de la surface, moins altérée. Donc par exemple, au fond d'un cratère, c'est plus intéressant. Mais le fond de ce cratère, il doit être assez large, sans des cailloux, sans des montagnes. Parce que si on tombe et on se trouve sous la somme d'un gros caillou, on ne peut rien faire. Donc il met en péril toute la mission et toutes les années de travail. Vous considérez que même ces missions sont étudiées par des années, il faut faire des propositions aux agences spatiales pour les faire accepter et les lancer. Donc normalement, une mission comme ça, je vous dis, juste pour avoir une idée, Rosetta, moi j'ai commencé, c'était les années 80, et on est arrivé avec les résultats en 2016, et ça, c'est l'Agence spatiale européenne. Il met vraiment très, très longtemps pour faire des missions spatiales. Après, la NASA, c'est beaucoup plus rapide. Les Japonais, encore plus rapide. Mais il faut quand même pas mal d'années de travail derrière à la réalisation.
Merci. Un autre commentaire, une question sur Internet. Donc, il y a du matériel extraterrestre, des astéroïdes qui tombent sur Terre.
Oui.
Est-ce qu'on peut imaginer faire le même type de mesure? Est-ce que c'est fait? Comment ça se compare, le matériel qui tombe sur Terre, avec ce type de matériel qu'on va récupérer?
Depuis des années, il y a tous les géochimistes qui travaillent sur les matériaux qui arrivent, il y a les micrométéorites, il y a les météorites qui arrivent sur Terre. Et grâce à ça, on a fait tous les modèles de formation de notre système solaire. Donc, il y a les micrométéorites qui tombent en Antarctique, c'est encore plus protégé, parce que c'est des lieux où il y a moins d'évolution, même si après, il y a la glace qui peut altérer avec l'humidité, etc. Mais ce matériau est quand même altéré. Donc, jusqu'à maintenant, on les a utilisés, on a basé toute la construction de l'âge de notre système solaire sous les météorites, et on s'approchait beaucoup à la réalité, parce qu'on a vu vraiment que notre système solaire, il est né il y a 4,6 milliards d'années, parce qu'on a daté ce type de matériaux avec les anélites sur Terre. Mais ces matériaux-là, ils sont quand même altérés. Les plus primitifs sont très fragiles, donc il y en a beaucoup qui se fragmentent complètement quand ils arrivent, et quand même, ils doivent passer l'atmosphère. Donc vous imaginez la vitesse de l'atmosphère, l'altération, les réchauffements dus à l'entrée dans l'atmosphère, et l'atmosphère elle-même, et quand il arrive sur les lieux. Un des objectifs, c'est les récupérer au plus vite, donc il y a des campagnes, des choses. Il y a aussi à l'Observatoire de Paris des gens de l'IMCCE qui ont fait des recherches de météorites pour après les collisions, et les récupérer au plus vite pour avoir des matériaux les moins altérés possibles. Mais normalement, ces matériaux, il ne faut pas les toucher, il ne faut pas qu'ils soient contents de l'atmosphère. Donc, les matériaux qu'on a à disposition, grâce aux impacts des météorites et micrométéorites, c'est quand même des matériaux très altérés.
Ok, il y avait une question tout là-haut, après je passe là.
Bonsoir, question un peu plus simpliste. En fait, en définitive, est-ce que l'analyse des échantillons a bien pu prouver que l'existence de l'eau et donc la naissance de la vie sur la Terre est lié directement aux impacts de météorites et a été apporté par des corps extraterrestres.
Voilà. Normalement, c'est qu'on hypothèse jusqu'à maintenant qu'il y a eu beaucoup d'impacts pendant la formation de notre système solaire et la formation de la Terre. Il y a eu beaucoup d'impacts. Et il semble qu'après ce grand moment d'impact, c'était vraiment beaucoup, beaucoup d'impacts, il y a eu les premiers signes de vie. Donc, on associe ces premiers signes de vie à l'effet qu'il y a eu des impacts avec la Terre. La Terre était beaucoup plus chaude, donc tout ça, ils ont apporté de l'eau, etc. Maintenant, c'est dans quelle forme, à quel type, etc. C'est grâce à cette analyse qui, petit à petit, analyse qui vient de démarrer. Hein. C'est une analyse qui démarre. Et comme je vous disais, il y a eu 5 grammes. De ces 5 grammes, il y en a 2,5 qui sont gardés d'un côté, les 2,5 de l'autre côté distribués dans le monde entier, mais qui nous apportent l'effet que dans ces objets, il y avait l'eau. Donc c'est cette eau qui était quand même apportée sur Terre et qui a provoqué parce que l'eau, c'était la base, hein, c'est de la formation de la vie, mais aussi toutes les autres molécules. Donc aussi la recherche de tous les organiques sont très importants pour comprendre. Et il y a plein de techniques sur Terre qu'on pourrait étudier et analyser. Donc il y a tous les laboratoires maintenant, tous les chimiochimistes qui sont sur Terre, qui ont fait des demandes à la JAXA, à la NASA pour analyser les échantillons. Donc on espère d'arriver à beaucoup plus d'informations.
Une autre question, plusieurs questions là sur la mission dont tu as parlé, sur Phobos et sur Mars. Tout d'abord, est-ce qu'il y a un rover qui est prévu dans cette mission?
Oui.
Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté qu'il peut y avoir du matériel qu'on va récupérer sur Phobos? On est sûr qu'il viendra de Phobos, il ne peut pas être altéré par du matériel martien?
Oui, alors, il y a un rover, et comme j'avais dit, c'est un rover qui est fait par les CNES, l'Agence spatiale française, et les DLR. Donc ça, c'est dans la tradition. Rosetta, Hayabusa 2, MMX, il y aura toujours un rover, et les CNES et les DLR, ils sont en train de miniaturiser. Donc c'était très lourd, je me souviens plus si c'était 150 à l'époque de Rosetta, c'était 30 dans les cas des mascottes pour Hayabusa 2, et là c'est un petit rover, tout petit, qui doit faire 10 kilos, qui va faire des mesures et il y a qui va aussi bouger sur la surface des Phobos. Donc ça, c'est la première chose. Sur les échantillons, c'est tout le but, c'est essayer de comprendre cette histoire. Donc, sans doute, il doit y avoir quelques petites poussières martiennes, mais plus que la poussière martienne de l'intérieur peut-être de ce qu'il est circum-martien. Donc, il y a beaucoup de débats, est-ce qu'il y a vraiment de la poussière martienne ou non. Mais à toute façon, dans cette analyse, on verra d'abord si c'est en collision avec Mars, sans doute il y a du matériel martien. Hein? Donc il sera du matériel martien de la collision avec Mars plus du matériel de l'impacteur. Et si c'est un astéroïde capturé, ça sera complètement différent. Mais même s'il y a un astéroïde capturé, il peut y avoir quelques particules par million, je ne sais pas, vraiment des petites particules très fines sur la surface qui proviennent de Mars. Donc ça, c'est l'intérêt de tout ça, bien sûr. Et donc le but, c'est qu'avec cette mission, on peut vraiment arriver à déchiffrer beaucoup toute cette partie plus entre les systèmes internes et externes et tous les systèmes circonmartiens.
Ok, on va prendre encore quelques dernières questions.
J'ai un commentaire, une question. Un commentaire, tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'a pas la technologie pour ramener des échantillons de Mars. Je suppose que cette technologie, c'est la puissance qu'il faut emmener là-bas qui permettra ensuite de quitter le champ d'attraction de Mars. Quand je vois toutes les difficultés du projet Artemis pour revenir sur la Lune, qui a une gravité qui est beaucoup plus faible que celle de Mars, et que j'entends des astronautes qui sont contemporains et qui sont candidats pour aller sur Mars, je ne comprends pas. Donc on n'est même pas capable d'aller chercher quelques grammes sur Mars et de les ramener sur Terre.
Oui, vous avez raison. Donc en réalité, moi je pense que nous, dans notre histoire, dans notre vie, ici moyenne, on ne verra pas ni l'homme sur Mars, ni des échantillons martiens. Là, il y a toutes des études de pouvoir prélever des échantillons martiens. Il y avait l'idée, il y a les rovers, vous savez, il y a plusieurs rovers qui sont sur Mars. Il y en a un certain nombre. Et il y en a un dernier qui a récupéré des échantillons, mis dans des petites boîtes et laissé dans certains sites, en fonction qu'il y a un moment une autre sonde qui va les prélever. Mais là, il y a plusieurs projets. Il y a les projets qui peut-être cette sonde, il les lance et quelqu'un d'autre il va les récupérer. Mais aujourd'hui comme aujourd'hui, c'est compliqué et ce n'est pas possible. Ça veut dire on étude, on essaie de les faire. Donc c'est l'objectif de la NASA, c'est l'objectif de l'ESA, c'est l'objectif des Chinois. Nous, on ne verra pas l'homme sur Mars, c'est sûr, certain. Parce que d'abord, il faut 2 ans pour y aller. Une année pour y aller et tous les 2 ans la possibilité d'y aller. Et donc pour revenir, on ne peut pas revenir tout de suite, il faut attendre que la Terre soit dans une position. Donc ça, c'est tous les 2 ans. Donc il faudrait rester là au moins un certain nombre de périodes. Et il faut une année pour revenir, donc c'est quand même long. Et surtout, il n'y a pas la matière primitive, il n'y a pas la matière nécessaire pour la vie de l'homme. Et voilà, donc ce n'est pas si simple, c'est quand même compliqué, mais c'est bien rêvé, c'est bien, ça veut dire, bon, on a eu l'homme sous la Lune, c'est excellent, mais c'était une autre époque, c'était l'époque où il y avait la NASA et l'Union soviétique, où ils investissaient tout dans l'espatial, parce que c'était la bataille entre l'Amérique et les États-Unis et l'Union soviétique. On n'est plus dans cette période, j'espère qu'on ne le saura pas, mais il y a beaucoup moins d'argent investi dans l'espatial qu'à l'époque. Donc, les développements, c'est en fonction aussi de l'argent investi.
Aristote disait que l'espérance est le rêve de tout homme éveillé.
Ouais.
Alors, j'en viens à ma question. Comment ça se fait qu'on cherche des traces de vie, c'est-à-dire des composés carbonés sur des astéroïdes et qu'on n'en trouve pas sur Mars, qu'on ne trouve pas sur la Lune? Comment ça se fait? Alors que la théorie qui est en vogue, c'est que ces planètes, ces astres sont formés par une accrétion d'astéroïdes, en fait.
Oui, voilà. Tous ces objets, ils se sont accrétés, mais en fonction de la distance du Soleil, il y a de la matière qui est plus ou moins primitive, qui est moins évoluée. Et cette matière est moins évoluée quand il est plus formé, par exemple, comme les chondrites carbonées. Alors, Mars, c'est formé des silicates, des basaltes, c'est plus évolué. Mais sur Mars, on trouve des traces de matériaux hydratés, donc on trouve des bandes de phyllosilicates, on voit dans la surface martienne qu'il pouvait y avoir eu l'eau à un certain moment, mais il n'y a pas aujourd'hui. Donc, sous la Lune est d'une composition complètement différente. Donc, on ne peut pas avoir les mêmes choses. Et quand on parle d'astéroïdes, par exemple, il y a des astéroïdes qui sont métalliques, il y a des astéroïdes qui sont silicates, il y a des basaltes, il y a des compositions très différentes en fonction de la distance où ils se sont formés dans les systèmes solaires. Mais pour créer la vie, il faut l'eau, il faut les organiques, il faut les molécules prébiotiques qui ont fait que la vie soit née. Donc il faut des conditions qu'on cherche de comprendre quelles sont les conditions idéales pour nous mettre. Donc, comme quand on cherche la vie sous les autres systèmes planétaires, notre collègue, il travaille sous les autres systèmes planétaires, on va voir quelles sont les planètes à une distance telle comme la Terre qui pourraient avoir habité la vie. Et après, il faut considérer les conditions pour la porter, pour la créer. Mais voilà. On n'a pas toutes les réponses encore.
Alors, y a-t-il quelques dernières questions ou commentaires dans la salle ? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de nous arrêter là. Merci encore, Antonella.
Merci à vous. Merci de vous voir.
Et donc, on se retrouve le mois prochain, le 7 mars, avec David Svalsgabo, qui nous parlera de l'espace-temps déformé. Donc, on peut réserver à partir de demain matin. Voilà. Bonne soirée à tous et aux internautes également. Bonsoir.
Et merci.